le sage Alexis Robert. À tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui ? Vivre simplement, ce n'est pas renoncer à son confort, c'est goûter à la liberté de façon joyeuse et décontractée. Voici ce que nous enseigne Alexis Robert, un jardinier autonome dont le mode de vie frugal et épuré épouse parfaitement les besoins de la planète et de l'humanité. Avec 900 euros de retraite, j'ai beaucoup trop d'argent, dit-il. Alors je parraine des enfants dans le monde entier. L'argent existe pour être partagé et circulé. Être pauvre, c'est l'art d'être libre. Dans cette émission, La Voix des Oasis, donnons la parole à Alexis Robert, cet homme d'une simplicité touchante qui incarne la bienveillance. On est en train de faire un tour de France de tous ces lieux alternatifs, tous ces lieux d'expérimentation collective, les éco-villages, les habitats participatifs, et je me retrouve dans la forêt de Brocéliande, sur le terrain d'Alexis Robert à La Guette, l'association Terre et Partage, ici en pleine forêt de Brocéliande. Donc je vais m'intéresser un peu à ton histoire, à la vie de ce lieu, et savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'implanter ici à La Guette.
C'était un espace agricole qu'on m'a proposé, une paysanne qui prenait sa retraite, et j'ai mis 6 mois à accepter sa proposition, car j'avais déjà démarré deux fermes en écologie, écologie et sociale. Et là, je n'avais plus trop envie de recommencer encore. J'avais 60 ans, quelque chose comme ça, 61. Et finalement, j'ai quand même accepté de prendre le lieu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Je n'avais plus envie de produire. Du maraîchage ou autre. Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir ce lieu pour tout ce qui est alternatif, dans tous les domaines, l'alternatif, quoi, dans tous les domaines, sans avoir un programme précis, sans faire un budget, sans rien du tout. Simplement, j'ouvre le lieu, puis on verra bien ce qui se passe. Et j'avais à peine ouvert, j'y étais pas encore, et j'avais un groupe de 300 personnes qui arrivaient. C'était les amis de Silence. Donc, ils m'ont dit, ben, on sait que tu viens d'avoir un terrain, donc nous, on aimerait bien faire notre rencontre annuelle ici. C'était la deuxième rencontre annuelle des amis de Silence, avant, la première étant au Larzac. Et ben, j'ai dit, oui, bien, moi, mais c'est un terrain agricole, il n'y a rien, il faut tout faire. Et ben, on vient à 80 pendant 8 jours, on prépare tout, on fait les toilettes sèches, les douches solaires, on construit un grand barnum pour recevoir tout le monde. Et puis la semaine d'après, ben, on commence ça. Donc ça s'est passé comme ça. Ouais, voilà.
Mais le terrain, tu as été mis à disposition, tu as investi sur ce terrain, comment ça s'est passé?
J'ai acheté le terrain, pas très cher.
Tu disais que c'était un terrain agricole, mais tu as quand même pu construire aujourd'hui différentes habitations sur ce terrain.
Il y avait une ruine qui avait servi de cellier. En Bretagne, on dit cellier, c'est une grange, quoi, où on fait le cidre. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur le terrain, donc c'est des ruines et les terres agricoles.
Et donc là, quand tu as récupéré cette ruine, tu en as fait une maison avec cette volonté de réduire au maximum ton empreinte écologique, oui, mais aussi d'être dans une forme d'autonomie, hein, si j'ai bien compris.
Oui, bon, moi, c'est important de ne pas dépendre au minimum de la société. Il y a toujours un aspect où on dépend toujours de la société, mais plus on est autonome, mieux ça vaut. Donc j'ai toujours vécu, plus je peux dire que je crois que depuis toute ma vie j'ai vécu modestement, dans la simplicité, la sobriété heureuse, si on se réfère à Pierre Rabhi. Et donc je continue tout simplement.
Pourquoi avoir fait le choix de vivre simplement? Donc, tu fais partie d'une génération où tout fonctionnait, l'emploi fonctionnait, on était dans le tout jetable, dans l'illusion du matériel. Pourquoi toi, tu n'es pas rentré dans ce système-là et tu as fait le choix de cette simplicité volontaire ou de cette sobriété heureuse?
Ben parce que ça me correspondait sans doute à ce que j'avais dans le fond de moi-même. Parce que j'étais élevé comme ça aussi, hein, j'étais élevé dans une très très pauvre monde. Enfin oui, les gens dirait pauvrement. Moi, je n'aime pas trop penser que j'étais pauvre, mais c'est comme ça. Puis moi, ce qui compte, c'est que tout le monde puisse vivre heureux ensemble. C'est vivre heureux ensemble, tout simplement. Tout le reste ne m'intéresse pas. J'aurais pu, hein, on m'a proposé deux fois de prendre des entreprises, de gérer des entreprises, dont une très grosse à Nice même.
Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Qu'est-ce que tu entends par le mot pauvreté? Parce qu'on peut parler de... Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre?
Pauvre, c'est être libre, pour moi. D'abord ça. Parce que tout ce qui... Toute la recherche des richesses matérielles nous rend prisonniers. Nous ligote. Et la pauvreté, c'est l'art d'être libre. Et ben, il y a des références. Moi, je suis qu'un petit bonhomme, mais il y a beaucoup de références. Gandhi, il a choisi la pauvreté aussi. François d'Assise, il a choisi la pauvreté. C'était des gens extrêmement libres, des personnes extrêmement libres qui ont fait du boulot sur la terre.
Tu as dit un mot très important, Gandhi ou François d'Assise ont choisi. Donc la pauvreté, c'est d'être libre à partir du moment où on le choisit.
Évidemment, il y a une grande différence entre la misère et la pauvreté. Beaucoup de gens parlent de pauvreté alors qu'ils parlent de misère. C'est tout à fait différent. La pauvreté, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est un choix de vie. Alors que la misère, c'est quelque chose qui nous est imposé.
On vit dans un monde où beaucoup de gens essaient de remettre du sens au cœur de leur vie. Beaucoup de jeunes n'ont plus forcément envie de s'adapter à ce système capitaliste, ce système qui, quelque part, on se rend bien compte, atteint ses limites ou les a déjà atteintes, et donc cherche d'autres directions, d'autres moyens de vivre. Donc toi, j'imagine que depuis des années, tu les vois passer, tous ces jeunes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette jeunesse que tu observes autour de toi ?
Oui, depuis une trentaine d'années, puisque avant j'étais dans un autre écolieu, j'en ai créé trois ou quatre, quoi. C'est ça. Et donc j'ai vu passer des milliers de personnes, principalement des jeunes, mais pas que des jeunes. J'ai des gens de 50-60 ans qui ont envie de changer de vie, qui en ont marre de la ville, qui en ont marre de leur boulot, etc., et de ce qu'ils font. Donc c'est actuellement, je suis à bas, disons en moyenne, il passe à peu près 2000 personnes dans l'année ici. Voilà, donc que je reçois, voilà.
Quand tu dis tu reçois donc 2000 personnes, une question que je me pose et j'observe ça dans les différents lieux qu'on découvre. Beaucoup de gens veulent s'installer dans un écolieu, finalement peu y restent et ça fait 20 ans que tu es là et on se rend compte que finalement il y a du passage mais les gens ne restent pas. Pourquoi ?
C'est-à-dire que la plupart de ces personnes sont en recherche. Donc elles vont de lieu en lieu pour voir ce qui correspond le mieux à elles, quoi. Y a donc ça, mais il y a aussi des personnes qui sont, je dirais, errantes, parce qu'elles ne sont pas prêtes à se fixer quelque part, à démarrer quelque chose. Donc elles sont dans leur imagination, dans leur désir, qui est tout à fait chouette, mais elles se créent une certaine instabilité. Si bien que dès qu'elle s'arrête dans un endroit, avec l'intention d'y demeurer quand même un certain temps, elle se barre à la première difficulté. Ça, c'est courant, hein, c'est très courant. Mais pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Hein, lié forcément à des jeunes de 20 ou 30 ans. Devant la difficulté, devant l'effort, ça ne tient pas. Ça ne tient pas.
C'est quoi la difficulté? C'est quoi l'effort?
L'effort, ben, c'est d'être tenace. Si je vis, c'est que je suis têtu, a dit un paysan brésilien. C'est ça. On n'arrive à rien si on n'est pas têtu, si on n'est pas tenace, si on n'est pas persévérant dans ce qu'on a projeté. Forcément, dans tout projet, il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, il y a des heurts, même parfois. Parfois, on se retrouve au tribunal, des choses comme ça. Eh bien, il faut tenir, quoi. j'ai tenu parce que je savais ce que j'avais, ce que je voulais, quoi. Et puis, il y a aussi, je pense que pour tenir, il faut qu'une des dimensions de notre vie soit spirituelle. Ça, je pense que c'est important. Quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire religieux. Moi, je fais partie d'aucune religion. Je n'ai aucune croyance. Mais par contre, j'ai une vie spirituelle et que je travaille depuis 60-70 ans.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
J'essaie de revenir à la notion du vivre ensemble, cette notion du collectif. Comment est-ce que tu organises ça? Comment est-ce que tu arrives à, avec le nombre de gens qui passent par ici, c'est compliqué le vivre ensemble.
Oui.
Comment est-ce que c'est organisé ici sur ton lieu de vie avec un système de chartes, une vision claire ou comment, comment est-ce qu'on arrive à cadrer des gens qui viennent du tout venant? Enfin, tu choisis pas forcément quels sont les gens qui passent sur le terrain, donc ça peut forcément créer aussi des complications liées aux personnalités des uns et des autres.
Oui. Donc ici, le lieu est ouvert vraiment à tout le monde. Je reçois des personnes qui sont sur la route, des ce qu'on appelle les SDF. Je reçois des personnes qui sont en addiction, drogue, alcool, etc. Et comme je reçois des gens plus huppés, disons, c'est tout. J'ai encore reçu là pendant longtemps un directeur général d'une très grosse boîte de fromage qui survole tout ce qui se passe en Afrique, là, de ce côté-là. Il faut s'adapter à chacun, il faut être très ouvert, il faut commencer par ne pas rejeter. Même si c'est un gros capitaliste, il ne faut pas le rejeter. Il faut essayer de dialoguer. Et voilà, il y a une charte à l'entrée du parking qui est claire, vous l'avez vu sûrement, qui précise un peu quand même le but du lieu.
Pourquoi avoir fait le choix d'accepter et d'accueillir tout le monde, sachant que les gens sont loin de notre propre vision, de notre propre schéma de pensée, plus ça va être compliqué de s'entendre et d'avancer ensemble. Pourquoi cette ouverture sur l'ensemble de la société et pas simplement sur une cible qui permettrait peut-être de rendre le projet plus facile?
Oui, mais je pense qu'on est tous sur Terre, on est tous frères et sœurs, hein, qu'on le veuille ou non. Donc il faut exclure personne, et il faut essayer d'avancer ensemble. C'est pas toujours évident, mais il faut essayer. Même le maire d'ici, pourtant, il m'a fait des vacheries. Mais je lui dis toujours bonjour. Et je lui ai passé ce que j'écris et tout pour qu'il essaie, en espérant qu'il comprendra un petit peu mon objectif, qui n'est pas d'être contre lui, mais de faire avancer un certain nombre de choses dont la société a bien besoin. Enfin, du moins, l'humanité, du moins. Pas la société, mais pas la société capitaliste, mais notre humanité.
J'ai l'impression de parler à la bienveillance, cette notion d'ouverture, d'accueil, d'acceptation, de résilience finalement sur le monde extérieur. C'est rare, Alexis, Robert, d'avoir quelqu'un en face de soi qui soit dans le pardon. J'ai l'impression que le mot pardon pourrait vous habiter, vous anime.
Oui, parce que pardon certainement, parce que moi j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner aussi. Donc voilà. Donc je pardonne au maire. Je dis, j'en veux pas. Si un jour il a besoin de moi, j'irai lui rendre service, sans problème.
Comment se passent les séjours des gens qui viennent ici? Comment ils s'intègrent dans le lieu? Parce que j'ai l'impression que c'est un grand espace de liberté aussi, d'accueil inconditionnel. Mais du coup, quand on n'a pas l'habitude peut-être de cette liberté qui est offerte, qui est donnée, de cette bienveillance, comment on la reçoit? Est-ce qu'il y a un petit peu une structure quand même qui permet d'orienter les gens?
Oui, concrètement, oui. C'est-à-dire qu'il y a différentes personnes qui viennent ici. Il y en a qui viennent simplement pour discuter avec moi. Parce que je fais de l'accompagnement de porteurs de projets en milieu rural. Donc il y a des personnes qui viennent une heure ou deux pour me parler de leur projet. Je reçois aussi des personnes qui ont des difficultés d'ordre psychologique, relationnel, que j'ai été avant d'être dans des écolieux. J'ai travaillé en psychiatrie. Et donc, j'ai encore des gens depuis 40-50 ans qui viennent encore me voir, que je continue à suivre. Et puis d'autres qui viennent par bouche à oreille, donc qui m'expliquent leurs problèmes de relation, soit au niveau du couple, soit au niveau des enfants, soit au niveau de leur travail, soit au niveau des voisins, etc. Donc, je reçois plein de personnes d'un peu tous les âges qui viennent pour, confier un peu leurs difficultés à vivre avec les autres.
Mais il y a une implication qui est demandée à ces personnes quand elles arrivent. Donc, si on vient une semaine, un mois, parce qu'on parle du woofing. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des tours des écolieux en faisant du woofing. Oui. Donc, un système d'échange. On travaille, on échange de quoi, on est nourri, logé. Mais ici, qu'est-ce que tu demandes aux gens qui passent?
Oui. Alors, pour ceux qui viennent simplement pour échanger sur leur prêt à compagnie, là, c'est gratuit. Je demande rien. Pour ceux qui viennent pour être ici une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, deux ans, trois ans, ça c'est variable. Alors là, je demande, c'est en woofing, donc 2h30 de travail par jour, 2h30 de travail en échange du repas du midi et de l'hébergement. Voilà. Donc, ici, c'est pas une communauté, mais c'est un lieu quand même où les personnes qui s'y trouvent se retrouvent à travailler 2h30 le matin et ensuite à manger ensemble.
Est-ce pas une communauté, mais est-ce que c'est un collectif ici?
On peut parler de collectif, oui. Il y a un désir de collectif ici, c'est très fort.
Mais les gens sont logés, hébergés comment? Donc, parce qu'il y a un système de, je sais pas, de loyer, de propriété. Là, on est dans un quartier. On a vu d'autres structures un peu partout sur le terrain. Est-ce que tout appartient? Est-ce que des gens sont aussi propriétaires? Comment ça fonctionne d'une manière économique?
Au départ, j'étais propriétaire des champs et puis des ruines. Et là, depuis 2-3 ans, je fais tout ce que je peux pour que ça devienne collectif. C'est-à-dire qu'on a démarré une SCCI, Société Civile Coopérative, dans l'objectif que la propriété, donc le terrain, soit la propriété d'un collectif. C'est très, très difficile de mettre en place parce que là, pendant 2 ans, il a fallu faire plein de réunions avec des quantités de papier, etc. Tout est prêt maintenant. Il n'y a plus qu'à amener tout ça au tribunal de commerce. Et puis, j'ai plus personne pour l'emmener. Parce qu'il y a eu des gens qui sont partis. D'autres. Voilà. C'est très, très laborieux. Mais ça va se faire quand même. Ça va se faire.
Pourquoi les gens partent?
Il y a beaucoup de problèmes d'ego. Moi, je veux que ce soit comme ça, et donc si l'autre, il veut pas, moi, je m'en vais, je suis pas d'accord. Voilà, il y a beaucoup de départs comme ça. Le dernier départ, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Il y a une personne ici qui devait venir prendre en charge un peu l'équipe, une équipe qui a été là 7-8 mois depuis le mois d'août l'an dernier. Et puis, il y a eu le fameux confinement, là, le virus qui nous a joué des tours, là. Et donc, elle est partie se faire confiner, à Nantes chez un copain. Et puis, elle est revenue 3 mois après, mais avec tout un esprit, en nous disant, vous n'êtes pas de mon niveau. Vous n'êtes pas de mon niveau. Ça, effectivement, je recevais des gens qui étaient tout simples à ce moment-là, qui étaient braves comme tout, mais qui étaient sûrs qu'ils n'étaient pas, pour elle, ils n'étaient pas de son niveau.
C'est incroyable qu'un lieu comme celui-là ne trouve pas quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans la durée. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens sont en recherche. Et là, il y a cette possibilité, cette ouverture que tu sembles avoir dans l'idée de transmettre un endroit, de le faire vivre avec des valeurs. Oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui bloque.
Il y a effectivement quelque chose qui bloque. Je cherche à savoir, mais je n'ai pas encore trouvé. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis 7-8 ans. Ça fait 7-8 ans que je cherche une relève. Je veux que ce soit une relève collective. Et donc, là, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
La vision du lieu.
Oui, la vision du lieu. Moi, c'est un lieu ouvert à toutes les alternatives, ouvert à la paix, ouvert à la communication non violente. Voilà, je résume comme ça.
Ah oui, la question c'était vraiment ça, dire que ce lieu est accessible, cette envie de transmettre quelque chose, mais avec une vision qui est donc celle de la paix, un lieu qui serait un lieu d'expérimentation où chacun pourrait venir vivre une écologie intérieure, une écologie pratique, une écologie qui permettrait de trouver des alternatives au système actuel.
Tout à fait ça, c'est tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, concrètement sur le terrain, il y a un espace qui est à l'entrée, qui est vraiment dédié à la paix. Il y a le mot paix à l'entrée du, 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 du terrain. Un peu plus loin, il y a un massif avec le sigle de la paix. Un peu plus loin, il y a une spirale de plantes aromatiques avec un olivier au centre, toujours la paix. Et on voit aussi d'assez loin, on voit une colombe blanche qui est au milieu d'un mandala.
Tu as jamais peur, Alexis ? Tu as jamais eu un sentiment des fois de peur de te rattacher à un collectif ou de retourner dans le système ? Est-ce que tu as toujours eu cette espèce de confiance qui t'habite depuis ta jeunesse ? Ou d'où ça te vient, cette confiance ?
Alors cette confiance, je pense que quand on me pose ce genre de questions, je retourne voir ma grand-mère. J'ai été élevé par une grand-mère. Que ma mère est morte quand j'avais 4 ans et mon père était absent. Et ma grand-mère était paralysée en plus. À ce temps-là, elle a dû se faire un AVC, elle avait tout un côté paralysé. Un bras comme ça qui était mort, quoi. Une jambe morte aussi. Et elle n'avait plus de voix. Ses cordes vocales étaient paralysées aussi. Mais c'est cette grand-mère qui a été ma voix dans ma vie. Elle n'avait rien, on était pauvres comme je sais pas, on était vraiment pauvres, hein. On vivait avec quelques poules, quelques lapins, une chèvre, et voilà, et dans une bicoque qui était une véritable passoire, l'eau du ciel nous tombait dessus, elle passait par-dessous la porte, l'eau passait par-dessous la porte, on était obligés avec des boîtes de conserve, tu sais, vides, de racler sur la terre battue, parce que ça faisait des trous, et puis il y avait plein d'eau dedans, il fallait racler tout ça, et moi j'ai vu qu'il y avait rue là-dedans. Voilà. Et ma grand-mère, elle avait un sens inné. Tous les gens du village, du hameau, etc., quand ils avaient un problème, quand ils étaient malheureux, enfin, qu'ils étaient tristes, etc., il n'y a plus le moral, ils venaient voir ma grand-mère, ils se mettaient sur le bord de la porte, parce qu'on avait une porte à deux battants, donc ils s'appuyaient sur le premier, sur le battant du bas. Et puis, il disait bonjour à ma grand-mère. Ma grand-mère leur faisait comme ça, avec sa bravalie. Ben, entrez, ils entraient, ils se mettaient, ils s'assoyaient près d'elle, elles prenaient leurs mains, et puis elle les laissait parler. Elle ne disait rien, elle ne pouvait pas parler. Et puis, une demi-heure, je ne sais pas, ou trois quarts d'heure après, ils repartaient, il y avait une morale, c'est parti. Et un jour, il y a une bohémienne, je sais, donc une gitane, qui est passée avec une ribambelle d'enfants, 5-6 enfants derrière elle, qui demandait de l'argent ou quelque chose pour l'aider. Et ma grand-mère, nous, on n'avait pas d'argent, donc on ne pouvait pas lui en donner. Et ma grand-mère me dit, va, parce que je la connais très bien avec sa main, et puis je lisais sur ses lèvres aussi. Et elle m'a dit, va chercher la caisse de pommes de terre qui nous reste. Donc j'étais chercher le cajot de pommes de terre. Et elle me dit, t'en mets la moitié pour la bohémienne et l'autre moitié pour nous. Voilà.
Ça, tu as continué à appliquer ce don presque inconditionnel de tes possessions envers les autres.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'était inconditionnel.
Je veux bien qu'on parle du côté économique. De quoi tu vis, Alexis ? Est-ce que tu peux me parler des ressources dont tu as besoin pour ton quotidien ? Parle-nous de tes ressources et de la manière dont tu divises ton budget.
Oui, alors j'ai beaucoup trop d'argent. J'ai 930 euros de retraite par mois, vous vous rendez compte. Il paraît que je suis sous le seuil de pauvreté, c'est de la blague ça. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors il faut bien que je m'en débarrasse. J'ai pas envie de le mettre à la banque. Donc, je partage simplement, c'est tout simple. J'ai 20 parrainages d'enfants actuellement dans 18 ou 19 pays. Et je soutiens une quarantaine d'associations écologiques, humanitaires, sociales, etc. Voilà.
Mais pourquoi tu gardes rien on revient à cette notion des peurs. Pourquoi tu ne gardes rien à la banque ou quelque part au cas où? Parce que la plupart des gens ont ce besoin de sécurité. Avoir de l'argent, c'est quelque part se sécuriser.
Oui, j'ai encore un petit peu d'argent à la banque, mais j'aimerais bien ne pas en avoir du tout. Et je ne sais pas, parce que c'est des trucs qu'on m'a mis, je ne sais pas trop quoi, je faisais confiance, moi, c'est à la caisse d'épargne, et puis ils m'ont mis des trucs que je ne peux pas retirer. Ah, ça, je suis embêté avec ça, parce que j'aimerais bien retirer pour le faire circuler. Et ben là, j'ai un peu encore à la caisse d'épargne. L'argent, c'est un moyen, c'est un outil, c'est tout, c'est pas autre chose. C'est un outil qui doit circuler, qui doit servir. C'est pas un truc qui doit rapporter. Un outil, ça fait pas de petit. Donc l'argent ne doit pas faire de petit, ne doit pas donner des intérêts, etc. Et donc, il faut, le seul intérêt de l'argent, c'est de pouvoir provoquer des échanges et donc de circuler. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de mettre de côté. Mettre de côté pourquoi ? On ne sait même pas si on va vite demain. La vie, on ne sait pas.
Tu dis que tu es beaucoup trop riche avec 930 euros de retraite. De combien tu as besoin réellement par mois ?
Oui, ben, je pense que je compte. Pendant très longtemps, j'ai compté, je notais tous les jours ce que je recevais, ce que je dépensais. Mais maintenant, je ne le fais plus, j'en ai marre. Je suis comme pèlerin de paix qui, au début, comptait le nombre de kilomètres qu'il faisait à pied. Puis au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit, ça ne sert à rien, je marche et tout. Ouais. Là, c'est pareil. Mais je pense qu'actuellement, je dépense à peu près pour moi, hein, pour mes besoins personnels, je dois être autour de 150 euros par mois. Voilà, donc je peux dégager tout le reste.
Je veux bien que tu développes ta relation avec l'argent, parce que tu as une vision tellement différente de la plupart des gens. Qu'est-ce que c'est que l'argent ?
L'argent, ben, je l'ai dit, c'est simplement un outil pour échanger, c'est tout. Et ça n'a pas d'autre lieu d'être autre chose. Tout ce qui est autre chose, la banque, je sais pas de quoi, moi, tous les trucs, la bourse, tout ça, c'est des saloperies. Pour moi, c'est des saloperies. Et si on veut arriver à avoir un monde plus humain, plus fraternel, plus solidaire, eh bien, il faut se débarrasser de tout ça.
Quels sont c'est pas des besoins d'argent, mais quels sont tes besoins pour vivre, enfin, qu'est-ce qui te nourrit vraiment et qui te fait avoir cette force de vie à ton âge et puis cette joie de vivre aussi.
Ben c'est vous. C'est vous et tous les autres qui viennent. Moi, quand je suis une journée ou deux ou trois jours pendant le confinement, là, j'avais plein de bouts de travail à faire. J'étais tout seul pour entretenir le terrain. Mais je m'ennuyais un peu aussi parce que moi, j'ai besoin des autres, quoi. Ce sont les autres qui me font vivre. Moi, je me donne aux autres, mais les autres se donnent à moi aussi.
Tu as quel âge, Alexis ?
81.
Quels sont tes projets futurs ?
Je vis à l'instant. Maintenant, avant, j'avais des projets, donc je veux arriver à ceci, je veux arriver à cela. Mais maintenant, non, je vis aujourd'hui. Demain, si je suis encore sur Terre, je vivrai demain. J'ai pas tout ce qui peut attacher aussi. J'ai pas de télé, j'ai pas Internet, j'ai pas de portable, j'ai pas de frigo, j'ai pas de congélateur, bien sûr. J'ai pas tous ces trucs-là, c'est parce qu'ils sont vraiment pas du tout indispensables. Je le constate depuis des dizaines d'années. Mais j'ai ma liberté, je suis libre. Quelqu'un arrive et je n'ai pas annoncé ni rien, mais je suis libre, je suis là. Il n'y a pas de problème.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
Alexis, je suis passé ici sur ton terrain il y a 5 ans. Et tu m'avais montré ta maison avec les différents systèmes de récupération d'eau de pluie, des panneaux solaires. Et aujourd'hui, je te rencontre dans un carter, donc une surface bien plus petite. Et je t'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'interview dans ta maison ? Et tu me disais qu'elle a brûlé.
Oui, ma maison a brûlé au mois de mai, il y a 2 ans. Un jour que j'étais parti faire des courses, et il s'est trouvé pendant 1 heure personne sur le terrain. Et c'est pendant ce temps-là qu'elle a brûlé. On ne sait pas pourquoi. Les pompiers n'ont pas trouvé, moi non plus, et je n'ai pas trop cherché non plus.
Comment tu accueilles ça ? Parce que c'est quand même symboliquement la maison qui brûle, c'est quand même une perte totale de tous ces repères. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça intérieurement ?
J'ai vécu ça, c'est dur hein, sur le coup, c'est assez vache quand même. Puis j'avais plus rien, même pas d'habits, sauf que ceux que j'avais sur mon dos. Quoi. Tout ce que j'ai écrit depuis des dizaines d'années, tout ça, ça a flambé. Comme je n'avais pas Internet, j'avais aucun endroit où j'avais mes archives. Ouais. Toutes mes archives ont brûlé. Quoi. Bon, ben, tout ce que j'avais peut-être 3-4 000 livres, ils ont brûlé aussi. Voilà. Mais bon, ben, c'est comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est pas ce qu'on a ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'on est.
C'est pas ce qu'on a le plus important, c'est ce qu'on est. Waouh.
Et est-ce que, Alexis, tu as déjà eu envie d'avoir une famille? Enfin, est-ce que tu es tombé amoureux, l'envie de fonder une famille Ouais, enfin, parce que je vois que tu as une famille très élargie de plein de gens qui viennent vers toi, mais est-ce que l'envie d'avoir une plus jeune, peut-être, est-ce que ça t'est un moment titillé?
Mais j'ai des milliers d'enfants. Déjà tous ceux que j'ai parrainés dans une vingtaine de pays. Ça fait 40 ans que je parraine, donc ça commence à faire du monde. J'ai plein de personnes qui viennent me voir qui eux n'ont pas de parents, etc. Donc je leur dis tu es mon fils ou tu es ma fille, c'est tout. Mais j'ai eu des enfants aussi, j'étais marié, j'ai été 15 ans marié, j'ai eu 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, hein, c'est bien égal. Et bon, ce sont mes enfants aussi, je les accueille, etc. Mais il y a d'autres personnes qui sont autant mes enfants que les enfants que j'ai eus par mariage, etc.
De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui?
Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Il me manque une relève, parce que j'aimerais bien que ce lieu continue avec le même esprit. Donc j'aimerais bien qu'une équipe soit vraiment en place et perdure, quoi. Pour le moment, c'est un peu l'impermanence, ça ne dure pas. Mais bon, c'est ce qui me manque un peu, c'est cet aspect de ça, c'est cette réalité, enfin, oui, qu'il y a une équipe qui prend ma place, quoi. Oui.
Et quelles sont tes richesses aujourd'hui?
Mes richesses aujourd'hui, ce sont les autres. Ça, il y a aucun doute. C'est ma richesse, c'est tout ce que je partage avec les autres, tout ce que les autres veulent partager avec moi. Tout le reste ne m'intéresse pas. Ce que l'on a, ça compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est ce qu'on est.
Alexis Robert, donc on est chez toi à la forêt de Brocéliande, sur le lieu La Guette, un lieu de passage, un lieu de transmission aussi, avec Alexis qui est quand même un sacré personnage, qui est vraiment touchant, et cette notion de bonté qui, moi, me touche vraiment. Peut-être revenir, comment est-ce que tu gères les conflits? Quand dans le collectif, on est face à des problèmes, parce que ça existe, comment est-ce que tu gères ça?
J'essaie de le gérer avec le maximum d'ouverture. Maximum d'ouverture, en considérant que chacun, même s'il pose des problèmes, même si à un moment donné, il va falloir lui dire qu'il est préférable qu'il s'en aille, eh bien, j'essaie de le faire avec beaucoup d'amour, et je ne rejette jamais quelqu'un. Je dis à quelqu'un, à ce moment, c'est pas possible que tu restes là, c'est pas possible, ça pose trop de problèmes, donc il est préférable que tu t'en ailles, mais je te fous pas la porte. Si un jour tu veux revenir, tu peux toujours venir discuter avec moi, ma porte est toujours ouverte, et si un jour tu peux revenir, eh ben on verra si c'est possible à ce moment-là. Mais je n'exclus personne. Si je dois prendre une décision par rapport à quelqu'un, je le fais avec le plus d'humanité possible et toujours en laissant une porte ouverte.
Alexis, merci beaucoup. La voix des oasis, c'était Alexis Robert, ce sage qui vit quelque part dans la forêt de Brocéliande sur la commune de La Guette.
La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.